Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères.
Radio U, textuel, lire pour vivre mille vies.
J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses.
Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront.
Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la
J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un.
Au chapeau de feutre.
Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme et tu es féministe depuis l'adolescence.
Accoudée au bastingage.
La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi en ce moment, j'ai l'impression d'avoir la tête trop pleine, gavée de mots, d'histoires, de tout ce qui se passe dans le vaste monde et me pleut dessus. Je suis pleine de pensées, d'idées, de sentiments, de choses à faire, trop de choses à faire, de choses à finir, de choses à commencer, de bavardages, de commentaires sur des choses qui ne méritent pas un gramme de commentaires, des mots des autres, des mots à moi, je suis submergée. Je marche, je fais une chose, une autre, et ça danse là-haut, sans cesse ça danse. Tout ce petit monde de pensées va et vient, passe, repasse, se meut, s'agite sans fin dans ma tête. Et je ne peux rien saisir, ni y mettre aucun ordre. Ce sont des pensées toutes faites qui glissent. Je voudrais éteindre la lumière, que ça se calme, saisir, ordonner, traiter, classer, tout ranger. Mais il n'y a pas de case et je ne suis pas un ordinateur. Et tout danse là-haut, et le monde continue d'apporter de l'eau à mon moulin, et rien à faire, pas de répit. Le seul moment de repos, c'est quand je rêve. Là, il y a une histoire, ou une impression d'histoire, c'est ordonné. Peut-être délirant, mais il y a un sens, une sorte de sens. Et puis, je sais que je ne suis pas seule dans cet état. Il y a aussi Henri Michaud dans « Mes propriétés ». Dans mes propriétés, tout est plat, rien ne bouge. Et s'il y a une forme, ici ou là, d'où vient donc la lumière? Nulle ombre. Parfois, quand j'ai le temps, j'observe, retenant ma respiration. À l'affût, et si je vois quelque chose émerger, je pars comme une balle et saute sur les lieux. Mais la tête, car c'est le plus souvent une tête, rentre dans le marais. Je puise vivement, c'est de la boue. De la boue tout à fait ordinaire ou du sable, du sable. Ça ne s'ouvre pas non plus sur un beau ciel. Quoiqu'il n'y ait rien au-dessus, semble-t-il, il faut y marcher courbé comme dans un tunnel bas. Ces propriétés sont mes seules propriétés et j'y habite depuis mon enfance. Et je puis dire que bien peu en possèdent de plus pauvres. Souvent, je voulus y déposer de belles avenues. Je ferais un grand parc. Ce n'est pas que j'aime les parcs, mais tout de même. D'autres fois, c'est une manie chez moi inlassable et qui repousse après tous les échecs. Je vois dans la vie extérieure ou dans un livre illustré un animal qui me plaît, une aigrette blanche par exemple, et je me dis « ça, ça ferait bien dans mes propriétés, et puis ça pourrait se multiplier ». Et je prends force note et je m'informe de tout ce qui constitue la vie de l'animal. Ma documentation devient de plus en plus vaste. Mais quand j'essaie de le transporter dans ma propriété, il lui manque toujours quelques organes essentiels. Je me débats, je pressens déjà que ça n'aboutira pas cette fois non plus. Et quant à se multiplier, sur mes propriétés, on ne se multiplie pas. Je ne le sais que trop. Je m'occupe de la nourriture du nouvel arrivé, de son air, je lui plante des arbres, je sème de la verdure, mais telles sont mes détestables propriétés que si je tourne les yeux ou qu'on m'appelle le dehors un instant, quand je reviens, il n'y a plus rien, ou seulement une certaine couche de cendre qui, à la rigueur, révélerait un dernier brin de mousse roussie. À la rigueur. Et si je m'obstine, ce n'est pas bêtise. C'est parce que je suis condamnée à vivre dans mes propriétés et qu'il faut bien que j'en fasse quelque chose. Je vais bientôt avoir 30 ans et je n'ai encore rien. Naturellement, je m'énerve. J'arrive bien à former un objet ou un être ou un fragment. Par exemple, une branche ou une dent, ou 1000 branches et 1000 dents. Mais où les mettre ? Il y a des gens qui, sans effort, réussissent des massifs, des foules, des ensembles. Moi, non. 1000 dents, oui. 100 000 dents, oui. Et certains jours, dans ma propriété, j'ai là 100 000 crayons. Mais que faire dans un champ avec 100 000 crayons ? Ce n'est pas approprié. Ou alors, mettons 100 000 dessinateurs. Bien, mais tandis que je travaille à former un dessinateur, et quand j'en ai un, j'en ai 100 000, voilà mes 100 000 crayons qui ont disparu. Et si pour la dent, je prépare une mâchoire, un appareil de digestion et d'excrétion, sitôt l'enveloppe en état, quand j'en suis à mettre le pancréas et le foie, voilà les dents parties, et bientôt la mâchoire aussi, et puis le foie, et quand je suis à l'anus, il n'y a plus que l'anus, ça me dégoûte. Car s'il faut revenir par le côlon, l'intestin grêle et de nouveau la vésicule biliaire et de nouveau tout, alors non, non. Devant et derrière, ça s'éclipse aussitôt. Ça ne peut pas attendre un instant. C'est pour ça que mes propriétés sont toujours absolument dénuées de tout, à l'exception d'un être ou d'une série d'êtres, ce qui ne fait d'ailleurs que renforcer la pauvreté générale et mettre une réclame monstrueuse et insupportable à la désolation générale. Alors je supprime tout, et il n'y a plus que les marais, sans rien d'autre, des marais qui sont ma propriété et qui veulent me désespérer. Et si je m'entête, je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais parfois, ça s'anime, de la vie grouille. C'est visible, c'est certain. J'avais toujours pressenti qu'il y avait quelque chose en lui, je me sens plein d'entrain. Mais voici que vient une femme du dehors, et me criblant de plaisirs innombrables, mais si rapprochés que ce n'est qu'un instant, et m'emportant en ce même instant, dans beaucoup, beaucoup de fois le tour du monde. Moi, de mon côté, je n'ai pas osé la prier de visiter mes propriétés dans l'état de pauvreté où elles sont, de quasi-inexistence. Bien, d'autre part, promptement harassée donc de tant de voyages où je ne comprends rien, et qui ne furent qu'un parfum, je me sauve d'elle, maudissant les femmes une fois de plus, et complètement perdue sur la planète, je pleure après mes propriétés qui ne sont rien, mais qui représentent quand même du terrain familier, et ne me donnent pas cette impression d'absurde que je trouve partout. Je passe des semaines à la recherche de mon terrain, humiliée, seule. On peut m'injurier comme on veut dans ces moments-là. Je me soutiens grâce à cette conviction qu'il n'est pas possible que je ne trouve pas mon terrain. Et en effet, un jour, un peu plus tôt, un peu plus tard, le voilà. Quel bonheur de se retrouver sur son terrain. Ça vous a un air que n'a vraiment aucun autre. Il y a bien quelques changements. Il me semble qu'il est un peu plus incliné ou plus humide, mais le grain de la terre, c'est le même grain. Il se peut qu'il n'y ait jamais d'abondante récolte. Mais ce grain, que voulez-vous, il me parle. Si pourtant j'approche, il se confond dans la masse, masse de petits halos. N'importe, c'est nettement mon terrain. Je ne peux pas expliquer ça, mais le confondre avec un autre, ce serait comme si je me confondais avec un autre. Ce n'est pas possible. Il y a mon terrain et moi, puis il y a l'étranger. Il y a des gens qui ont des propriétés magnifiques, et je les envie. Ils voient quelque chose ailleurs qui leur plaît. Bien, disent-ils, ce sera ma propriété. Sitôt dit, sitôt fait, voilà la chose dans leur propriété. Comment s'effectue le passage? Je ne sais. Depuis leur tout jeune âge, exercés à amasser, à acquérir, ils ne peuvent voir un objet sans le planter immédiatement chez eux, et cela se fait machinalement. On ne peut même pas dire cupidité, on dira réflexe. Plusieurs même, sans doute à peine. Ils ont des propriétés magnifiques qu'ils entretiennent par l'exercice constant de leur intelligence et de leur capacité extraordinaire. Et ils ne s'en doutent pas. Mais si vous avez besoin d'une plante, si peu commune soit-elle, ou d'un vieux carrosse comme en usait Joan V du Portugal, ils s'absentent un instant et vous rapportent aussitôt ce que vous avez demandé. Ceux qui sont habiles en psychologie, j'entends par la livresque, auront peut-être remarqué que j'ai menti. J'ai dit que mes propriétés étaient du terrain. Or, cela n'a pas toujours été. Cela est au contraire fort récent, quoique cela me paraisse tellement ancien, et gros de plusieurs vies même. J'essaye de me rappeler exactement ce qu'elles étaient autrefois. Elles étaient tourbillonnaires, semblables à de vastes poches, à des bourses légèrement lumineuses, et la substance en était impalpable, quoique fort dense. J'ai parfois rendez-vous avec une ancienne amie. Le ton de l'entretien devient vite pénible. Alors, je pars brusquement pour ma propriété. Elle a la forme d'une crosse. Elle est grande et lumineuse. Il y a du jour dans ce lumineux et un acier fou qui tremble comme une eau. Et là, je suis bien. Cela dure quelques moments, puis je reviens par politesse près de la jeune femme et je souris. Mais ce sourire a une vertu telle, sans doute parce qu'il l'excommunie, elle s'en va en claquant la porte. Voilà comment les choses se passent entre mon ami et moi. C'est régulier. On ferait mieux de se séparer pour tout de bon. Si j'avais de grandes et riches propriétés, évidemment je la quitterais. Mais dans l'état actuel des choses, il vaut mieux que j'attende encore un peu. Revenons au terrain. Je parlais de désespoir. Non, ça autorise au contraire tous les espoirs, un terrain. Sur un terrain, on peut bâtir, et je bâtirai. Maintenant, j'en suis sûre, je suis sauvée, j'ai une base. Auparavant, tout étant dans l'espace, sans plafond, ni sol, naturellement, si j'y mettais un être, je ne le revoyais plus jamais. Il disparaissait par chute. Voilà ce que je n'avais pas compris, et moi qui m'imaginais l'avoir mal construit. Je revenais quelques heures après l'y avoir mis, et m'étonnais chaque fois de sa disparition. Maintenant, ça ne m'arrivera plus. Mon terrain, il est vrai, est encore marécageux, mais je l'assécherai petit à petit, et quand il sera bien dur, j'y établirai une famille de travailleurs. Il fera bon marcher sur mon terrain. On verra tout ce que j'y ferai. Ma famille est immense. Vous en verrez de tous les types là-dedans. Je ne l'ai pas encore montré, mais vous la verrez. Et ces évolutions étonneront le monde. Car elle évoluera avec une avidité et cet emportement des gens qui ont vécu trop longtemps à leur gré d'une vie purement spatiale et qui se réveillent transportés de joie pour mettre des souliers. Et puis, dans l'espace, tout être devenait trop vulnérable. Ça faisait tache, ça ne meublait pas, et tous les passants tapaient dessus, comme sur une cible. Tandis que du terrain, encore une fois, ah, ça va révolutionner ma vie. Mère m'a toujours prédit la plus grande pauvreté et nullité. Bien. Jusqu'au terrain, elle a raison. Après le terrain, on verra. J'ai été la honte de mes parents, mais on verra. Et puis je vais être heureux. Il y aura toujours nombreuse compagnie. Vous savez, j'étais bien seule, parfois. La paresse. L'âme adore nager. Pour nager, on s'étend sur le ventre. L'âme se déboîte et s'en va. Elle s'en va en nageant. Si votre âme s'en va quand vous êtes debout, ou assis, ou les genoux ployés, ou les coudes, pour chaque position corporelle différente, l'âme partira avec une démarche et une forme différente. C'est ce que j'établirai plus tard. On parle souvent de voler, ce n'est pas ça. C'est nager qu'elle fait. Et elle nage comme les serpents et les anguilles, jamais autrement. Quantité de personnes ont ainsi une âme qui adore nager. On les appelle vulgairement des paresseux. Quand l'âme quitte le corps par le ventre pour nager, il se produit une telle libération de je ne sais quoi, c'est un abandon, une jouissance, un relâchement si intime. L'âme s'en va nager dans la cage de l'escalier ou dans la rue, suivant la timidité ou l'audace de l'homme, car toujours elle garde un fil d'elle à lui. Et si ce fil se rompait, il est parfois très ténu, mais c'est une force effroyable qu'il faudrait pour rompre le fil. Ce serait terrible pour eux, pour elle et pour lui. Quand donc elle se trouve occupée à nager au loin, par ce simple fil qui relie l'homme à l'âme, s'écoulent des volumes et des volumes d'une sorte de matière spirituelle, comme de la boue, comme du mercure, ou comme un gaz, jouissance sans fin. C'est pourquoi le paresseux est indécrottable, il ne changera jamais. C'est pourquoi aussi la paresse est la mère de tous les vices. Car qu'est-ce qui est plus égoïste que la paresse ? Elle a des fondements que l'orgueil n'a pas. Mais les gens s'acharnent sur les paresseux. Tandis qu'ils sont couchés, on les frappe. On leur jette de l'eau fraîche sur la tête. Ils doivent vivement ramener leur âme. Ils vous regardent alors avec ce regard de haine que l'on connaît bien et qui se voit surtout chez les enfants. Je vous ai lu des textes de Henri Michaud, extraits du recueil « La nuit remue », édité chez Gallimard en 1967.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.